Bonjour Fabien.
Bonjour David, bonjour à tous. L'opération quartier d'été s'est déclinée à Bressuire, dans le quartier de Valette. L'État engage des moyens spécifiques à destination des habitants des quartiers prioritaires de la ville sur la période estivale dans le cadre de cette opération. L'enveloppe départementale est de 50 000 euros répartis sur les contrats de ville du département, soit 26 250 euros pour Niort, 12 450 pour Bressuire et 11 300 euros pour Thouars. Catherine Labussière, sous-préfète, et Magali Baudin, déléguée de la préfète pour les quartiers prioritaires.
L'idée des quartiers d'été, c'est bien d'offrir des activités aux jeunes et aux moins jeunes, aux familles, dans les quartiers politiques de la ville. Voilà. Donc, ici à Valette, mais aussi à Thouars et à Niort, Clouboucher et le quartier Pontereau.
Donc, en effet, dans le cadre du dispositif quartier d'été, on mobilise plusieurs partenaires de la politique de la ville, donc essentiellement les centres socio-culturels, mais on mobilise aussi les missions locales pour d'autres actions sur le champ de l'emploi ou encore des associations sportives également pour mener des activités autour du sport dans les quartiers prioritaires.
Et ce fut le cas la semaine dernière dans ce quartier de Bressuire. Le CSC et les recycleurs de son ont mené un projet commun. Les explications de Cosette Clochard, animatrice au CSC.
C'est un projet en fait qui a été travaillé donc avec les familles du centre socio-culturel et puis les enfants du centre de loisirs de la LSH. Donc avec les recycleurs de son sur 4 jours pour amener à créer ensemble ce spectacle bal de ce soir. Donc le CSC a mis en lien les familles et puis les 80 enfants là, du centre de loisirs qui ont créé ce spectacle. Donc ça a été un projet intergénérationnel parce que finalement on a eu des personnes de 6 à presque 80 ans, du coup, parce que des grands-parents sont venus aussi avec leurs petits-enfants. Et puis un projet multiculturel sur ces 4 jours avec des spectacles, des ateliers autour de la danse et du chant, des ateliers de fabrication d'instruments de musique.
Et ces instruments ont été créés avec les recycleurs de son. Cette compagnie située sur le Parthenazien est animée par Emmanuel Ferjou et Tony Bailly. Ils savent faire des instruments avec tout et rien.
On a une quarantaine d'instruments différents de toutes sortes, un peu plus complexes à réaliser. Donc avec les enfants, on était sur des choses simples. On a fait plutôt de la musique verte à partir de coquilles d'escargot, de glands, de cupules de glands, de paille, des choses comme ça.
On imagine que ça fonctionne bien avec les enfants.
Ah ben oui, parce que du coup, on s'amuse. Parce que c'est vraiment le principe, leur donner envie de s'amuser et retrouver aussi le goût de fabriquer avec les mains, tout simplement, un travail manuel et se faire plaisir, par exemple, à réaliser une toupie avec un gland. Voilà, plutôt que d'acheter une toupie, on va dire, achetée dans le supermarché, voilà, j'ai fait pareil un hand spinner du Poitou, avec un bouton et un bout de ficelle. Voilà, et ça leur montre qu'on peut très bien fabriquer ses propres jeux, ses propres jouets et ses propres instruments de musique. Que les enfants, ils ont l'œil vraiment pétillant quand on fabrique, quand ils repartent avec les jeux, les jouets qu'ils ont fabriqués eux-mêmes.
Et cette opération quartier d'été à Bressuire s'est terminée par un bal sur le square Jean Bousseau.
Le Flip a refermé ses portes ce dimanche.
Cette 37e édition s'est achevée sur une note très positive puisque les records de fréquentation ont été battus. 230 000 visiteurs sont venus sur le Festival des Jeux de Parthenay sur 12 jours. Coordinateur de l'événement, Étienne Delorme ne pouvait que tirer un bilan très positif à l'heure du démontage des installations.
Excellent bilan avec une fréquentation hausse, une fréquentation à la fois touristique et festivalière, et également des professionnels qui sont venus très très nombreux, autant du domaine de l'éducation que du jeu de société, du jouet et de bien d'autres secteurs pour profiter de toute la manifestation pendant les 12 jours.
Qu'est-ce qui fait que le Flip marche toujours aussi bien ?
C'est son côté très familial, on peut se balader dans l'intégralité dans un hyper-centre-ville avec des jeux et des jouets pour toute la famille, qu'on soit novice ou joueur éclairé, qu'on ait 0,3 mois ou qu'on en ait 90-99, on trouvera toujours de quoi faire quelque chose dans le ludique à Parthenay, pendant le Flip, chaque été en juillet.
Forcément, ces visiteurs, ils viennent parfois de loin parce qu'on ne peut pas faire un tel chiffre avec uniquement un public local. Hein.
Ah oui, ça vient de très très loin. Alors, bien sûr, le plus gros pourcentage, c'est quand même le département des Deux-Sèvres. Cela étant, ça représente environ en moyenne 23% de la population du festival. Tout le reste provient des départements extérieurs aux Deux-Sèvres. En moyenne, la durée de séjour est de 2 jours et plus et certains vont jusqu'à passer la semaine complète.
Et certains restent même toute la durée du festival, 12 jours, le Flip témoigne en tout cas d'une grande vitalité dans l'univers du jeu.
Oui, en effet, le marché de toute façon sort, ou en tout cas permet d'obtenir environ 1000 jeux différents par an sur l'Hexagone, qui sont aussi diffusés sur le territoire et même plus largement. Et aujourd'hui, le marché se porte bien, on peut dire ça, bien, et du coup à un tel point que les Français ont la cote sur toute l'Europe au niveau du jeu de société. Le Flip est accompagné de gros groupes associatifs qui permettent à un grand nombre de bénévoles venus de tout territoire, ex-Poitou-Charentes, de participer à l'animation du festival, et que la communauté de communes de Partenay-Gâtine qui porte l'événement emploie 120 jeunes saisonniers qui sont formés, rémunérés, encadrés par des managers sur place, de façon à être capables d'accueillir le public, d'animer les règles, de tenir leur espace et bien d'autres choses qui permettent justement de maintenir cette qualité d'événement et de faire la fierté du territoire.
Des saisonniers qui restent encore mobilisés ce mardi pour une nouvelle journée de démontage des installations du Flip après 12 jours de festival très réussi avec, je vous le rappelle, 230 000 visiteurs. À Niort, le cirque d'été débute aujourd'hui jusqu'au 29 juillet et vers 19h ce mardi. Si le vent ne souffle pas trop, une funambule va effectuer une traversée impressionnante à 30 mètres de haut, de près de 200 mètres de long. De la Sèvre jusqu'au sommet du donjon.
L'office de tourisme du Bocage-Bressuret propose une série d'animations cette semaine.
Et ce mardi, c'est une visite guidée en canoë d'Argentonnet qui est proposée à partir de 6 ans. Rendez-vous à 15h30 à la base de plein air. Réservation obligatoire, tarif 9 euros par participant. Vous pouvez aussi découvrir aujourd'hui le patrimoine ferroviaire à Clessé. Rendez-vous à 18h, parking espace Carmin. Dégustation de produits locaux en fin d'animation. C'est gratuit, mais il faut réserver là aussi auprès de l'office de tourisme du Bocage-Bressuret.
Épris d'écologie, le jeune Toircé publie un livre d'expérience.
Âgé de 23 ans et originaire de Puy-Raveau, près de Thouars, Théo Aran a décroché à Angers une licence en biologie, option écologie et développement durable. Il y a 2 ans, l'ancien lycéen de Jean Moulin a préféré oublier le master pour parcourir 6300 km en stop et rencontrer sur le terrain 70 initiatives écologiques et solidaires en France. Sur les traces de l'agrophilosophe Pierre Rabhi, une sorte de Tour de France qui commence tout près à la Tour d'Auzet, près d'Argentonnet, comme il l'explique au micro Colline de Dominique Hérault.
La Tour d'Auzet est une oasis de vie qui s'engage dans des certaines autonomies, par exemple dans l'énergie, dans l'éco-construction, dans la nourriture, dans l'ouverture aux autres. Et donc, juste à côté de chez nous, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des exemples concrets de lieux autonomes, entre guillemets. C'est un lieu d'accueil qui propose de partager tout ça avec ceux qui viennent dans leur chambre d'hôte. En plus de ça, ils proposent pas mal de stages. Et toutes ces personnes qui viennent pour ces stages sont aussi sensibilisées, finalement, à la protection de l'environnement par tout ce qu'ils mettent en place sur leur lieu. Quelque chose qui m'a vraiment marqué pendant mon voyage, c'est par exemple le Moulin Bleu. Le Moulin Bleu, en fait, c'est l'histoire de 20 Parisiens qui vivent dans une colocation et qui souhaitent passer à l'étape supérieure dans leur façon de faire pour préserver l'environnement. Ils achètent un ancien moulin de près de 1 million d'euros qu'ils rebâtissent pour créer un lieu ouvert sur le monde. Et pour moi, ce qui m'a vraiment touché pendant mon voyage, c'est de voir à quel point on est capable de co-construire le monde ensemble en créant une place résiliente qui a été effacée dans le passé et qui est aujourd'hui remise à neuf pour justement redonner les clés de vivre en respect justement avec les écosystèmes.
Une sorte de vie de château très différente de celle qu'on imagine. Cette édifiante aventure humaine lui a inspiré un livre qui va être publié à l'automne. Théo Aran.
L'objectif de ce livre, c'est vraiment de recenser les clés qu'on peut mettre à notre échelle en œuvre. Que ce soit à notre échelle, à l'échelle d'une collectivité, mais aussi des politiques. Qu'on habite en ville, qu'on habite à la campagne, tout le monde peut y être sensible. Après, c'est vrai que tout le monde ne peut pas habiter dans des espaces ruraux, et si tout le monde le ferait, les écosystèmes seraient d'autant plus impactés. Donc ça veut dire que les villes ont tout à fait leur place, déjà d'un point de vue social, économique, etc., etc. Mais il faut les revoir, il faut changer un petit peu leur mode de fonctionnement pour avoir des systèmes qui fonctionnent de façon plus pérenne.
Un peu tenté par la politique politicienne, Théo Aran envisage la création d'un écolieu collectif, ce qui constitue déjà une forme d'engagement politique. Pour l'heure, il met la dernière virgule au livre intitulé « À venir dans nos mains », un livre en prévente sur la plateforme Ulule au prix de 23 euros et dont la sortie est prévu à cet automne. Pour être cohérent jusqu'au bout, le jeune Thouarsais a choisi de le faire imprimer sur un papier pelouse, 1000 fois moins gourmand en eau que le papier classique et sans produits chimiques écolo, mais pas vieillot. Reportage de Dominique Perrault.
Dans l'actualité sportive,
Cholet Basket devra gagner 3 matchs de qualification pour s'inviter en saison régulière de Ligue des Champions dans les mois à venir. Ils affronteront le club belge d'Anvers le 27 septembre à 13h à Belek dans la province d'Antalya en Turquie. En cas de succès, les Choletais défieront ensuite en demi les Serbes du FFP Belgrade ou les Italiens de Varese le 29 septembre à 15h. La finale est programmée le dimanche 1er octobre à 17h30. Le vainqueur de ce tournoi de qualification sera donc reversé en BCL. En football, les Chamois ont recruté un défenseur pour remplacer Brian Passy. Il s'agit de Jean-Philippe Célestin qui jouait en N2 à Bobigny la saison passée. Ce joueur de 20 ans a été formé au TFC à Toulouse. Les Chamois ont également fait signer un gardien, Bruno Mbianjeu. Il jouait jusqu'ici avec l'OGC Nice.